RFI, grand reportage. Amélie Tullet.
Bonjour à tous. En France, en cette rentrée 2018, le gouvernement promet la création de 250 ULIS au cours du quinquennat. ULIS pour Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire. Les ULIS sont des dispositifs ouverts pour la scolarité des enfants en situation de handicap. Elles permettent à des élèves d'avoir des apprentissages adaptés, tout en étant intégrés à certains moments dans une classe ordinaire. Le collège Claude Bernard à Paris accueille une dizaine d'élèves présentant des troubles des fonctions cognitives. Le dispositif ULIS, faire d'enfants différents des élèves comme les autres, c'est un grand reportage de Laurence Théo.
Vous êtes tous en bleu ?
Wow.
Allez, c'est parti.
Premier conflit mondial. Le premier conflit mondial.
Le cours d'histoire porte aujourd'hui sur la guerre 14-18. Élève en ULIS, Dylan souffre de handicap, mais il est ce matin avec ses camarades de 3e en classe ordinaire. Cela s'appelle l'inclusion. Et pas question de faire un cours plus facile. Dylan est dans ce cours un élève comme les autres.
Je termine de vous faire noter ça. Donc, Dylan, vous, ce que vous pouvez recopier, c'est ça. 73 millions.
J'ai une question. Est-ce que millions, on peut l'écrire en chiffres ?
Et fait plus de 9 millions de morts militaires. Sur tous les fronts. Là, je prends tous les
cours. Tu as arrêté d'écrire ?
Non, mais là, en fait, j'ai oublié.
Alors,
ce qu'il y a après.
Sur le front.
Mondial, en fait.
Mais, vous mettez virgule, mais on doit y ajouter.
T'écris plus, là.
Ah si, mais après,
virgule,
après
mais...
je sais plus ce qu'il y a après mondial, et après, j'essaie de rattraper, mais je sais pas où reprendre.
On doit
c'est pour
ajouter.
Ça que c'est dur.
Cheveux paille, coupé court, visage doux, des yeux clairs qui interrogent le monde, Dylan parle de sa différence.
J'aime pas trop quand on me dit handicapé, parce que je me sens un peu différent. Mais après, par exemple, moi... J'ai un problème de vitesse et de l'eczéma. Donc l'eczéma, quand j'étais en élémentaire, c'était un peu compliqué. Les autres, ils disaient « Ah, attention, il a l'eczéma et tout ça, faut pas le toucher après. » Et moi, j'étais un peu triste. Et après, par exemple, comme j'écris pas vite, souvent les cours, ils sont pas complets. Ils sont incomplets, ouais. J'ai un problème de vitesse. Bon, des fois, je peux écrire vite, des fois, j'écris pas vite. Ça dépend, en fait. J'ai l'impression que ça dépend un peu.
Agrégée de lettres modernes, Christelle Valette a enseigné pendant 14 ans en lycée. Elle a changé d'orientation. Elle est aujourd'hui coordinatrice ULIS au collège Claude Bernard à Paris. Elle est responsable de la pédagogie et fait le lien avec famille et médecins. Son credo, faire réussir les jeunes en situation de handicap. À chacun sa croisade. Elle revient sur les difficultés de Dylan.
Alors Dylan, quand il parle de son handicap, en citant deux choses bien précises, sa lenteur et son eczéma, c'est parce que lui, c'est son ressenti. Après, les élèves qui sont dans la classe n'ont pas les mêmes spécificités. Par contre, c'est une ULIS qu'on dit TFC, c'est-à-dire trouble des fonctions cognitives. Donc les fonctions cognitives, c'est des fonctions du cerveau qui vont avoir un impact sur la prise de décision, sur la conception de l'abstrait, sur la mémoire, sur la facilité à retranscrire avec le langage. Donc du coup, ça va se manifester parfois sur des compétences intellectuelles par une lenteur ou par un blocage par rapport à un système logique ou chronologique qu'on va devoir découper en étapes pour que ce soit plus facile. Et puis parfois aussi, ça peut avoir des répercussions sur l'adresse physique, c'est-à-dire que le traitement de l'information étant plus lent, il peut y avoir certaines maladresses dans la graphie pour écrire.
Bonjour Adèle.
Ah, j'ai pas mis mon nom.
Ah, ajoutez-le. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Bonjour Karine. Bonjour Sonia.
Quand ils sont en ULIS, les élèves étudient en petits groupes dans une salle qui leur est réservée. C'est différent que d'être immergé en classe ordinaire.
Bah en fait, la différence, c'est qu'on est plus, il y a plus de monde. Par exemple, en ULIS, on ne fait pas l'appel. En classe d'inclusion, on fait l'appel. Et par exemple, on fait des exercices plus durs. Et il y a certaines choses qu'on peut faire en double, par exemple. Espagnol, je fais en inclusion et en ULIS, mais l'histoire, c'est que en inclusion pour l'instant.
L'ULIS, c'est donc un dispositif et non une classe. 11 élèves sont accueillis ici au collège Claude Bernard à Paris. Christelle Valette.
C'est pas une intégration avec une classe au milieu d'élèves ordinaires. C'est des élèves handicapés au milieu des élèves ordinaires, avec des temps de regroupement pour les aider à vivre et à s'épanouir dans ce milieu ordinaire.
En cette rentrée 2018, 340 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans des établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale. C'est 20 000 de plus que l'an dernier. 253 ULIS ont également été créés, ce qui porte leur nombre à 8 814 en France. Alors, si les familles saluent l'effort accompli, elles le jugent encore insuffisant. Les temps de regroupement sont minutieusement pensés. Travail en petit comité, reprise des cours. Elle est là la belle idée de l'ULIS, proposer du sur-mesure pour que chacun avance à sa propre vitesse. Ce matin-là, 5 élèves sont regroupés pour un cours en commun.
Je t'ai pas réveillé, oui. Et ta maman non plus.
Si.
Mehdi arrive en retard.
Et comment tu es venue alors?
Bah, en bus.
D'accord. Il y a le monsieur du taxi qui est passé aussi ce matin pour me prévenir que tu seras en retard, d'accord? Alors, une fois, hein, Mehdi, pas deux, hein.
Ouais.
D'accord. Alors, Mehdi, on va travailler la science physique. Donc, tu prends ta feuille avec les vignettes. Mmh. Tu avais commencé, je crois.
Ouais.
Voilà, tu ouvres ta session de science physique.
Christelle Valette, en vous entendant, hein, c'est une fois, pas deux, c'est-à-dire qu'il y a une exigence. C'est pas parce que, au fond... On est avec des enfants, on va dire des jeunes un tout petit peu différents, que c'est...
On tient compte de leurs besoins spécifiques, on met en place des adaptations, mais ensuite on les considère comme des personnes. C'est-à-dire que quand on rentre en ULIS, on est en situation de handicap, mais l'ULIS c'est fait pour être en situation de réussite. Et donc nos élèves, ils doivent également réussir à faire les choses et à acquérir des savoirs et des stratégies pour se débrouiller dans la vie.
Au collège, les élèves en ULIS sont inscrits dans une classe ordinaire qui correspond à leur classe d'âge. Même s'ils n'ont pas le niveau, pourrait-on dire un peu rapidement, pour suivre cet enseignement. C'est Christelle Valette qui sélectionne les matières où l'élève sera en inclusion. Elle tient compte de ses capacités, de ses besoins et bien sûr de ses goûts. Monsieur Goujon est professeur d'anglais, il parle des élèves qu'il accueille en inclusion.
Ils font le même programme que les autres, avec quand même parfois des contrôles un peu adaptés, une notation parfois un peu adaptée, mais pour d'autres élèves aussi, parfois j'adapte aussi un petit peu la notation, j'enlève un exercice pour des élèves qui ne sont pas en ULIS, mais qui peuvent aussi présenter des profils particuliers. C'est bien donc pour ces élèves d'ULIS, mais c'est aussi très bien pour les élèves des classes dites ordinaires, quoi, parce que ça les oblige aussi à avoir un regard un petit peu sur un peu différent sur la société aussi, c'est vrai.
Et là, alors par exemple, est-ce que tu peux lire ce qui est marqué là?
Le tableau des éléments chimiques.
Très bien. Alors maintenant, on va essayer de trouver une molécule, d'accord? Est-ce que tu peux lire le nom de cette molécule là? Modèle de la molécule.
Le modèle de la molécule de dioxyde de carbone.
Petit gabarit, Anaïka cache derrière ses lunettes une grande espièglerie. Elle est en classe de 3e et suit un cours de sciences physiques.
Anaïka, elle est en 3e, donc c'est vrai qu'elle a du mal peut-être à prononcer le mot, mais elle arrive à faire l'exercice. Donc, c'est quelle couleur, Anaïka, le carbone?
Noir.
Je m'appelle Esther, je suis l'aînée de ma famille. Je suis en classe avec mes anciens camarades, s'appellent Dylan, Farah et Ramin.
Sur les 11 élèves, 8 sont en 3e. Ils bénéficient d'une AVSCO, c'est-à-dire une aide à la vie scolaire en collectif. Elle s'occupe du groupe, même si elle intervient parfois individuellement. C'est une particularité du dispositif. Marie Dupuis, tutrice des AVS, est en compagnie d'Esther.
En ce qui concerne Esther, bon, qui a parfois du mal dans le langage à s'exprimer complètement, et elle met un peu des bouts de phrases. Donc en fait, il faut l'aider un peu à accoucher d'une phrase complète ou d'une idée. Et c'est un peu lent au début, c'est un peu diesel, mais une fois que le mécanisme... Donc c'est un peu le début, enfin il me semble, d'alimenter quelque chose, et après elle va pouvoir dérouler sa pensée et la formuler.
L'ULIS, c'est également l'appartenance à un groupe de jeunes qui font face à une même situation. Les jeunes se soutiennent et se comprennent, car ils ont cette connaissance intime du handicap. Christelle Valette.
Esther et Anaïka sont très copines, parce que justement, chacune a ses compétences pour aider l'autre. C'est-à-dire que Esther elle a plus de mal à aborder les gens parce que elle va avoir peur parce qu'elle voit bien que tout d'un coup il y a quelque chose qui change. Anaïka elle a pas ça parce que les gens ils savent tout de suite, donc du coup elle va aborder les gens et ensuite Esther va continuer la conversation pour que Anaïka puisse avoir le temps d'exprimer sa pensée.
Moi des fois j'ai des difficultés en SVT, en techno, en Des fois, j'ai des difficultés en musique, des fois.
Cheveux noirs comme de l'encre de Chine, des yeux assortis aux cheveux, Ramin est solaire. Il échange avec Sonia Bossan, AVSCO de l'ULIS, de ce collège. Il tente d'expliquer ses difficultés.
En SVT, est-ce que des fois, je ne connais pas les séismes. Parce que je sais qu'un séisme, déjà, c'est un tremblement de terre. Du coup, pour diriger où ça se situe, je comprends rien.
Ramin, sa difficulté, ce serait plus au niveau de la compréhension. Alors, Ramin a beaucoup de capacité à mémoriser les choses. Alors, pour mémoriser une définition, il est très fort.
On fait un test pour voir ?
Alors, un test, quelque chose qu'il a appris déjà il y a un moment, c'était sur Louis XIV. Qu'est-ce que tu peux dire sur Louis XIV ?
Alors, Louis XIV, il est né en 1638, il est mort en 1715. Son père est Louis XIII et sa mère est Anne d'Autriche.
Il a une formidable mémoire. À chaque fois qu'il apprend quelque chose, en fait, il arrive à s'en souvenir pour longtemps.
Une autre colle à poser à Ramin.
En histoire, quel est le mot qui te vient à l'esprit, là ?
Une république.
Ah voilà, qu'est-ce qu'une république ?
C'est un régime politique où le pouvoir est détenu par les citoyens ou une partie d'entre eux. Il n'y a pas de roi et le pouvoir n'est pas héréditaire.
Sonia Bossan explique en quoi consiste son travail.
Écrire à leur place pour certains, donc j'écris sous leur dictée. Comme ça leur permet de libérer leurs pensées parce qu'ils sont plus confrontés à l'écriture et à l'orthographe. Donc ils peuvent essayer de réfléchir vraiment à la question posée. Ça peut être aussi reformuler les questions, le dire différemment pour qu'ils puissent comprendre. Et puis aussi, en fait, quand on travaille en petit groupe, enfin, donc c'est aider à la mémorisation.
Ramin, qu'est-ce que Sonia Bossan t'apporte ?
Pour moi, quand elle est là, pour moi, c'est une aide. Elle m'aide à faire mes devoirs. De temps en temps, elle m'aide. Et en fait, j'ai pas peur de poser des questions dans les matières où je ne comprends pas. Et sinon, j'ai appris quelque chose en histoire-géographie. Et avec Monsieur Hulse, en fait, j'ai connu les états généraux. Vous savez, ça date de quand ? Ça date le 5 mai 1789. La prise de la Bastille, c'est le 14 juillet 1789. Et la proclamation de la Première République, c'est le 22 septembre 1792.
Là, on a parlé d'autre chose et il revient sur quelque chose qui était antérieur. Voilà. Et donc, il faut qu'il soit recentré sur le sujet donné et non pas partir sur un sujet annexe. Voilà.
Ces élèves de l'ULIS en classe de 3e passeront des diplômes. Le CAP, par exemple, dont les épreuves peuvent être aménagées. Les familles et les professeurs déplorent toutefois le manque d'ULIS dans la filière générale et technologique. De ce fait, des élèves qui pourraient intégrer la filière générale sont contraints d'aller dans la voie professionnelle. Mais les élèves font aussi des stages, c'est une autre manière de vivre l'inclusion. Esther et Anaïka ont fait l'expérience en couture et en cuisine.
On a fait des gâteaux, on a fait pas mal à cannelle.
De la cuisine,
ouais.
De la pâtisserie même. Et le stage, c'est une spécificité des ULIS ?
Alors les ULIS, ils doivent choisir leur orientation assez tôt, plutôt que les autres élèves, parce que les élèves handicapés, leur vœu commence dès le mois de novembre de la 3e, alors que pour les autres élèves, c'est un peu plus tard. Ce qui fait qu'en 4e, ils ont tous fait des stages de découverte pour voir un petit peu quel domaine les attirait davantage. Et Anaïka et Esther, elles sont parties pendant 2 mois, 2 fois par semaine au lycée Octave Feuillet pour découvrir la broderie, la couture, ça leur a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'Anaïka, elle voudrait faire un métier en rapport avec le textile.
Aujourd'hui, je suis au collège en 3e année. L'an dernier, j'ai fait un stage de couture, de broderie. On a fait des fleurs. Je me suis fait des amis, même un élève qui m'a offert un chocolat à la récréation.
L'objectif de l'ULIS est de faire en sorte que les élèves s'épanouissent et réussissent. Christelle Valette.
Je pense que si on arrive à adapter les cours pour les élèves en situation de handicap, on pourra alors faire adhérer tous les élèves aux cours et faire réussir tous les élèves. Je pense que c'est la porte qui s'ouvre à tous. Parce que ce sont... En fait, les adaptations qu'on met au point pour eux, ils peuvent également servir à tous les autres.
C'est une forme de discrimination qu'on peut ressentir quand on est handicapé. Et finalement, ce n'est pas une discrimination différente de celui qui va avoir un problème social, un problème personnel, un problème familial. Par contre, peut-être, ce que je vois, c'est que le handicap ne peut pas être réparé. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en place des adaptations tout le temps. Alors qu'une difficulté sociale, moi j'ai beaucoup travaillé avec des élèves en difficulté sociale, ce qu'on voit c'est que quand même au bout d'un moment ils peuvent rattraper ce qu'ils ont, c'est-à-dire des lacunes. Nos élèves n'ont pas des lacunes, ils ont vraiment des problèmes de compréhension qui vont perdurer quoi qu'on fasse. Et ça, c'est cet enjeu-là qui me plaît, c'est la mise en place d'enjeux pédagogiques par rapport à des blocages et pas seulement par rapport à des lacunes.
Ces jeunes un peu différents sont aussi des adolescents qui ont besoin de partager avec les autres, pour grandir. L'inclusion en milieu ordinaire leur donne cette possibilité. Ces collégiens leur réservent un très bon accueil. Ils sont parfois un peu tuteurs, camarades, pour jouer au foot ou alors faire de l'escalade. En témoigne Julien, il est collégien en troisième.
Oui, moi je m'entends très bien avec Mehdi. Donc il y a Dylan et Mehdi dans la classe. Moi j'entends bien avec Mehdi en sport. Quand on fait, par exemple, quand on fait escalade ensemble, on se met toujours ensemble. On s'assure, enfin on est vraiment avec Mehdi, je m'entends très bien. Je suis pas dérangeant. Au contraire, en soi on leur apporte quelque chose, ils nous apportent quelque chose parce que on apprend à être au contact avec eux, quoi. Bah pour moi, son handicap, c'est qu'il comprend plus lentement que nous, quoi. Mais je trouve pas que ce soit un handicap, c'est... Bah, je sais pas, il prend plus de temps.
Et donc, ça veut dire, c'est quand ça se...
mélange.
Voilà, c'est quand... Ça, homogène, ça veut dire que ça se mélange.
Affirmativement.
Et hétérogène, ça veut dire... Ça veut dire ça ne mélange pas. En fait, alors on va dire la farine et l'eau, ça se mélange pas. Si ça se mélange, ça
veut dire. Attends, tu parles de quoi? Fais attention.
Du sel.
Alors, c'est soluble.
Oui.
D'accord.
Soluble, c'est ça veut dire que ça se mélange et insoluble, voilà. Ça veut dire que ça se mélange pas.
Homogène, hétérogène, soluble, insoluble, peu importe les mots. Et si la réussite de l'Ulysse était justement d'avoir réussi l'alchimie entre ceux qui d'habitude ne se mélangent pas.
Il était une fois un petit garçon qui avait peur de tourner en rond. Il voulait avancer, aller de la porte A à la porte B. Comment faire ? Le monde devenait un enfer. Je n'ai pas le code, criait-il.
Un grand merci à Christelle Valette et à son équipe. Un merci tout particulier aux élèves de l'Ulysse pour leur accueil chaleureux. Le dispositif Ulysse, faire d'enfants différents, des élèves comme les autres. Un reportage de Laurence Théo, réalisé par Pierre Chaffanjon.
À chaque fois, il revenait à son point de départ. Et il en avait marre. Comment sortir de ce labyrinthe? Personne n'écoutait sa plainte.
Maybe you could talk freely, speak to me, for once so truly, for once so truly, I could know. Swear you're gone, swear I'm standing. That would really be something. Most ways and most days, I am clearly disappearing. I am clearly disappearing at the thought of our nearing. I'm now.